Déjà, on apprend comment les ingénieurs romains ont résolu ces problèmes de tracé, on peut dire. À chaque fois, on apprend quelque chose sur leur manière de construire les routes et de concevoir les tracés routiers. Donc, ça complète les données qu'on a. C'est très intéressant à comprendre, en effet, l'ingénierie de l'époque qui est déjà pas mal développée, il faut dire, si on considère les moyens très simples qu'ils avaient à disposition. Ce qui est intéressant, ce qui change entre les différentes parties du tracé, c'est la largeur de la route, c'est comment ils construisent des virages et des choses comme ça. Donc, à cet endroit particulier qu'on fouille actuellement, on descend en flanc de coteau. Donc, c'était évidemment en pente. Et afin que la voie puisse traverser facilement cette pente, il fallait quand même terrasser et faire une surface plate. Et donc, ça, on n'avait pas dans les autres bouts de cet aspect de travail. Et puis, on voit aussi qu'ils ont rétréci la voie pour réduire en effet la charge de terrassement. Ils n'avaient pas des machines, ils ont dû faire à la main. Donc, forcément, il y a des bouts où ils ont décidé de faire la voie moins large. Et dans ce tronçon actuel, donc, elle est large de 3,5 mètres à peu près, pas tout à fait. Alors qu'un kilomètre plus loin, il peut atteindre une largeur de 6 mètres ou dépasser 6 mètres.
Et puis ce tronçon nouvellement découvert, est-ce qu'il est bien conservé?
Prédiment, on voit qu'ils avaient quand même des problèmes sur le bord qui donne sur la pente, hein, vu que justement c'était talité dans le versant. Alors la partie qui était côté versant, elle a commencé à s'éroder à la période déjà, donc avant l'abandon de la voie. Et puis ça a dû poser un problème de maintien. Mais pour le reste, elle est quand même très bien conservée parce qu'elle était rapidement ensevelie par la suite. Après, je pense, la fin de l'utilisation de la voie, la fin de la période romaine ou durant le début du Moyen Âge, il y a des collisions qui viennent depuis le haut de la pente qui recouvrent complètement cette voie. Et puis, elle était assez bien ensevelie, donc jusqu'à 2,5 mètres de sédiments sur la partie côté coteau qui a recouvert la voie.
Et puis, est-ce qu'on arrive à dire si ce tronçon était très fréquenté?
Là, on ne le sait pas, mais vu que c'est un ensemble, la voie, hein, et puis les parties qu'on avait fouillées à Arles, il y avait pas seulement la voie, il y avait aussi une sorte de restoroute, hein, une auberge romaine, qui était construite à côté de la voie. Donc, de ça, on peut déduire que pendant un certain moment, elle était effectivement bien fréquentée. C'était une voie principale pour la région. Hein. Après, bien sûr, il y a encore des voies plus importantes. Mais c'est déjà quand même, pour la région du Jura, c'était quand même une des premières voies et je pense qu'il y avait pas mal de trafic.
À pied ou à cheval?
Ben les deux, c'est clair qu'elle supporte absolument les passages à char, hein. C'est pour ça qu'elle est conçue aussi large d'ailleurs. Hein. Si on parle de ces parties où elle est plus large, qui se situent en plaine, où c'est plus facile à construire, ils sont faits pour que deux chars puissent se croiser. Alors que cette partie un peu plus étroite, il y a peut-être qu'un char qui peut passer dans une direction à la fois. Mais c'est sûr qu'il y avait aussi des personnes à pied qui utilisaient cette voie. D'ailleurs, on a trouvé ce qu'on appelle les clous de chaussures, hein, qui sont typiques pour les chaussures romaines, particulièrement ceux des légionnaires. Donc, il faudra les analyser pour voir si c'est plutôt des clous militaires ou civils. C'est donc des témoins certains d'un passage à pied. Mais on a aussi un élément qui vient plutôt d'un harnais, d'un cheval, d'un attelage, d'un char.